Bon, ben, on poursuit un peu sur l'air d'aller, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de la politique, et là, c'est le cas de Pierre Fitzgibbon, quand on a des placements privés, on parle pas d'actions à la bourse, là, mais des investissements privés dans des entreprises.
Oui, parce que c'est vraiment un problème de perception. Quand tu as un placement privé, un, c'est souvent que tu as un peu plus d'argent que la moyenne. On s'entend, M. Fitzgibbon a fait fortune dans le passé. Donc, se retrouve comme toute personne avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire immobilier, placement privé, placement en bourse, obligations. Tu peux avoir un mélange, un cocktail de placements. Et quand il est entré en politique, on lui a dit « t'as 13 placements privés dont tu devrais te départir ». Puis, sur les 13, il y en a deux qui restent encore dans son portefeuille. Un qui est un fonds, dans le fond, qui reste à liquider. Et ce placement dans une société privée, Immervision, qui a jugé, lui, que c'était pas le temps de vendre. Bon, il faut comprendre une chose. Un placement privé, ça se vend pas comme des actions en bourse. Je peux pas me lever le matin et me dire « aujourd'hui, je vais vendre à 22 piastres l'action ». Parce que tu as des partenaires d'affaires qui doivent soit te racheter ou trouver un autre partenaire. Il doit avoir une entente. Puis le prix est déterminé par une évaluation d'entreprise. Puis évaluer une entreprise en développement en technologie, c'est pas facile. Et ce qu'on est en train de faire avec cette espèce d'éthique très, très sévère, quand tu es, par exemple, un investisseur, disons, passif avec moins de 30% d'une entreprise, c'est d'éloigner des gens d'affaires de la politique. Puis là, il y en a une série passée. Puis je vais donner un exemple vraiment ridicule. Tu viens de Julie Boulay. Tu sais, elle a des pharmacies, puis une compagnie de boîtes de cow-boy. De boîtes de cow-boy familiales. Elle a été obligée de tout vendre ça, qui est son patrimoine à elle. Il n'y a pas d'influence directe. Tu as une pharmacie au coin de la rue. Tu n'es pas parce que tu es au gouvernement que tu vas influencer directement, nécessairement, ton revenu. Alors, tu sais, il y a eu des exemples comme
mais
ça.
Mais il va te poser une question tant que donner des exemples. Pierre-Carl Péladeau, chef du Parti québécois, il prend le pouvoir, il est propriétaire, en fait, actionnaire de contrôle de l'Empire, médias, donc journaux, télé. Mm-hmm. Est-ce qu'on l'oblige à vendre?
En fait, il faut que tu fasses un choix dans ce cas-là, Paul, parce que lui, en plus, il avait dit, je vais mettre ma compagnie dans une fiducie sans droit de regard, mais sans droit de vente.
Oui.
Et je vais être bien honnête avec vous autres, c'est difficile quand tu es propriétaire et contrôle, hein, tu contrôles une entreprise qui a autant d'impact.
Puis qui a des liens avec le gouvernement là, à tous les niveaux.
Tu n'auras aucune influence notable sur l'entreprise, tu vas parler à personne. Là. Tu ne prendras pas un pseudonyme pour envoyer un courriel à quelqu'un de l'entreprise et dire « Salut, c'est la personne dont je peux taire le nom, j'aimerais ça qu'on fasse ça. » Et ça, j'y crois pas. Mais des placements privés faibles, qui agissent dans le cours normal des affaires avec le gouvernement. Exemple, tu as un crédit de recherche et développement, tu as un prêt d'investissement Québec ou d'une banque. C'est pas majeur. Parce que si on va là, on n'aura plus de placement privé. On n'aura plus de gens qui ont réussi en affaires. On n'aura plus. T'sais, moi, je regarde ça, là, Paul. J'ai un petit placement privé moi-même, Paul. Okay, j'ai 10% de notre compagnie. Là. 10,1. On s'entend là. C'est des peanuts. Dans mon actif total, c'est un placement parmi tant d'autres. Mais je regarde les activités de l'entreprise, puis il y a un micro-pourcentage qui est lié à quelque part avec un programme gouvernemental. Et là, je me dis, hey, cette entreprise-là devrait m'empêcher de faire de la politique si j'étais à la place de M. Fitzgibbon. Faudrait que je vende. Mais là, tu veux, t'as-tu moins de vendre? Est-ce que le timing est bon? Est-ce que t'as le choix de vendre? Est-ce que tu peux vendre? Écoute, M. Fitzgibbon a quand même perdu le rendement d'Autobus Lyon, là. Parce qu'il a vendu avant d'entrer en politique. Et donc, je trouve ça un peu excessif.
OK. Puis tu sais, dans le cas de Péladeau, moi, je comprends quand tu dis c'est l'entreprise bâtie par mon père, puis pas vrai qu'il m'a vendu le patrimoine, puis que, tu sais...
Ben, reste là.
Mais non, mais c'est ça. Mais tu comprends, là, c'est un dilemme. T'sais. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être absolument, je sais pas, un prof, un syndiqué, quelqu'un, tu comprends, qui...
Mais tu te donnes un conflit d'intérêt de prof, moi? Un prof de cégep, par exemple, a un job garanti dans son poste s'il va donner son temps au service public. Alors, je te donne un scénario. T'es prof de cégep, tu t'en vas au gouvernement, tu deviens ministre de l'Éducation, toi. Là, tu parles avec le gars du Conseil du Trésor, tu parles avec le ministre des Finances, vous négociez une entente pour les profs, dont toi-même, tu vas être bénéficiaire dans 2 ans quand tu vas sortir. On jase, là. Il y a bien du monde qui sont plus en conflit d'intérêts qu'on
pense. M. Robert, j'ai preuve, d'ailleurs.
Écoute, on va aller plus loin. Les anciens premiers ministres, là, nomme-les, ils sont tous là. Quand ils étaient avocats, après, ils s'en vont d'infirme d'avocat, faire des relations publiques, de lobbying au nom des clients de la firme d'avocats pour le gouvernement, auprès du gouvernement. C'est une apparence de conflit d'intérêts. Oui, ils ont de l'information privilégiée. Oui, ils ont de l'influence. Mais c'est après le fait, donc on n'en fait pas un cas, mais c'est quand même problématique quand tu y penses. Un ancien chef d'État qui vient après ça dans le domaine privé pour influencer l'État au nom de clients peut être rémunéré en conséquence. Donc, tu sais, à un moment donné, en politique, là, attends, tu vas mettre ta vie publique, tu vas te faire critiquer, tu vas perdre des avantages financiers, ta vie va être scrutée, on va déformer tes propos, tu vas gagner moins qu'avant, mais vas-y. Le best, c'est d'avoir une job ordinaire, devenir député de l'opposition fédérale, faire proche de 200 000 de revenus, et là, améliorer ta vie financière.
C'est-tu ce que mon ami Lapierre disait? Il dit, tu fais de la politique à deux moments dans ta vie. Quand t'es bien jeune, tu commences, t'as rien à perdre, c'est tes premiers pas dans la vie active. Ou encore, quand t'es en fin de carrière.
Il disait, prêt à donner. Quand t'es prêt à donner.
Ouais, là, t'es prêt à donner, t'as fait l'argent que t'avais à faire, ou bref, tu sais, t'as fait le tour, puis là, il te reste des années professionnelles intéressantes. Ben là, tu y vas.
Et c'est un grand sage, parce qu'avec l'expérience qu'il avait, il avait vécu toutes les époques de la politique, et donc il savait très bien de quoi il parlait.
Ouais.
D'ailleurs, Mario Dumont disait tout le temps, si quelqu'un veut se lancer en politique, je vais l'amener dîner avant. On va jaser. Il faut qu'il sache dans quoi il s'embarque.
Salut, bonne journée. Salut. 7h23.